L'émission 100% Rouge et Noir,
c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, c'est 100% Rouge et Noir autour de la table ce soir pour débattre celui qui monte en Fédéral 3 avec son équipe de l'AS Bressol, Maxime Prat, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et il va faire la championnat de France. Hein.
Notre journaliste Gilles Gauthier, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Notre invité ce soir, l'ancien arrière international Sébastien Vierce, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Au sommaire de ce 100% Rouge et Noir, Gilles.
Le journal du stade, le débat 100%, le stade en demi de Champions Cup dimanche, serait-ce un échec si Toulouse ne va pas en finale? Ensuite, ce sera la fan zone. On entendra le débrief des supporters toulousains après la belle victoire contre le Racing. Et puis, le bel Kinghorn Ramos. Hugo Moella a-t-il trouvé la bonne formule avec son triangle arrière? Sébastien Vierce nous donnera son avis d'expert. Et enfin, l'interview de notre invité, Sébastien Vierce. Il faut bien rester avec nous. On aura des choses à lui demander en deuxième partie d'émission.
100% Rouge et Noir, le journal du stade.
François Cross et Paul Coste se sont entraînés normalement.
Ils étaient ménagés face au Racing, mais ils postulent pour la demi de dimanche. Même Jack Willis, victime d'une gastro-entérite samedi, est de retour à l'entraînement cette semaine.
Romain Tamac et David Berti vont porter la flamme olympique.
Oui, ce sera le 17 mai à Toulouse où la flamme va ensuite passer la nuit. L'ouvreur du stade aura même le privilège d'allumer le chaudron dans le stade Ernest Vallon.
Antoine Dupont fait son entrée dans le Petit Larousse illustré.
Le demi-de-mêlée intègre l'édition 2025. Il fait son entrée dans le dictionnaire parmi 40 nouvelles personnalités, dont Mylène Farmer, Omar Sy et ou encore Antoine Griezmann.
100% Rouge et Noir, le débat 100%.
Objectif final pour le stade toulousain ce week-end, dimanche à 16h au Stadium. Le stade défie les Harley Quinns en demi-finale de Champions Cup. Ce sera sa 6e demi-finale consécutive dans cette compétition. Alors question, messieurs, si le stade ne se qualifie pas pour la finale, serait-ce un échec pour les hommes d'Hugo Moella?
Sébastien Vierce.
Oui, ce sera un échec forcément quand on sait la pléiade de stars qu'il y a dans cette équipe. Il n'y a pas un supporter toulousain qui sera présent dans le stade dimanche qui imagine une défaite ne serait-ce que d'un quart de point. Évidemment, ce match, il faudra le jouer face à une équipe vraiment super forte quand même, très ouais. joueuse, qui a à peu près les mêmes qualités finalement que cette équipe du stade. J'imagine pas franchement ce Toulouse-là.
Même avec perdre. Ce que les Harlequins ont montré contre Bordeaux, à Bordeaux, il y a 15 jours là.
Ouais, parce qu'ils ont été très très bons, force est de le constater. Ils ont été surtout dominateurs sur les phases de conquête, et notamment en mêlée, ce qui leur a fait vraiment du bien. Ils le seront beaucoup moins contre le stade.
Et l'UBB n'avait pas Jalibert, et c'est pas la même équipe avec
ou sans Jalibert. Il n'avait pas Jalibert, ni Penon.
Ni Penon, oui.
Effectivement, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais.
Mais sixième demi d'affilée dans la même compétition, c'est pas déjà en soi une moitié de réussite, une réussite
réussite. Si, c'est un exploit, mais demandez au Real de Madrid s'ils ont envie de perdre en demi-finale, et ils vous diront que ça sera une énorme contre-performance. Donc,
c'est vrai.
Quand on est habitué à jouer les premiers rôles, on est un peu boulimique de ça. Donc perdre une demi-finale à domicile, ça serait quand même une vraie contre-performance pour eux.
Maxime Prat.
En fait, ce qui change des autres années, c'est que c'est vraiment le fait déjà de ne pas affronter le Leinster en demi. Parce que le Toulouse a malheureusement beaucoup affronté cette équipe en demi sur les années précédentes.
Et beaucoup perdu.
Et beaucoup perdu en Irlande. Donc là, c'était pas considéré forcément comme un échec, parce que tu avais l'excuse de dire que tu étais à l'extérieur contre peut-être une des meilleures équipes d'Europe, qui est d'ailleurs tombée après contre La Rochelle deux fois. Donc, mais là, le fait de l'avoir à la maison, ils ont vraiment fait en sorte, au niveau des poules, de gagner avec des bonus systématiquement pour pouvoir avoir ce calendrier favorable. Mm-hmm. Le 8e et le quart sont passés facilement. Ça va se corser dimanche, mais moi, j'imagine pas Toulouse perdre dimanche. Et s'ils perdent dimanche, dans la tête d'Hugo Moella et des supporters, ça sera un échec, parce que cette année, la Champions Cup, elle est cochée. Le titre de top 14, c'est pas qu'ils en veulent pas, mais ils l'ont gagné l'année dernière.
Ouais.
La Champions Cup, ça fait deux ans qu'ils sont en échec en demi, donc ils l'ont à la maison. Le match, ils ont réussi à le faire au Stadium, c'était pas gagné d'avance avec le TFC qui jouait le même week-end. Ils se sont arrangés pour jouer, le stade s'est rempli en 20 minutes, donc c'est un énorme événement. Une demi-finale de Coupe d'Europe, la chance de l'avoir à la maison. Et puis, il faut dire les choses. Le Stade Toulousain, aujourd'hui, ils sont en pleine forme. Ils n'ont pas de blessés. Ils ont un effectif au complet. Ils galèrent pas en championnat comme l'année dernière ou les autres années où il fallait absolument se qualifier dans les deux. Les deux sont assurés. Donc, ils peuvent y aller vraiment en plein pot. J'ai envie de dire, ils n'auront pas d'excuses si ça se passe mal dimanche, quoi.
Je crois que ce sera la 16e demi-finale dans cette compétition. depuis le début. Mais s'ils perdent samedi, dimanche, et qu'admettons ils vont en finale top 14 où ils le gagnent, ça sera quand même une saison au final ratée, tu penses? Parce qu'ils butent sur cet objectif Champions Cup depuis, c'est pas vieux, 2021 quand même, ça commence à...
Non, mais jamais de la vie. S'ils sont champions, si aujourd'hui ils pouvaient signer là un titre de champion de France qui leur est assuré, et
même puis, en stoppant.
Et puis point barre, ouais. Franchement.
Ils signent.
Ouais, je crois que oui.
Mais ça ferait un peu la même saison que l'an dernier. Quoi.
Non, mais c'est ça pour
fait
ça.
Pas... Alors,
ça
c'est dur de dire ça, mais ça fait un peu du surplace.
Non, mais ça serait un échec sur le moment. Mais si jamais après ils vont chercher le titre, bien sûr que la saison sera réussie. Mais s'ils perdent dimanche soir, ça serait un échec. Voilà. Parce que ça leur mettrait encore plus de pression pour le top 14. Donc, mais oui, c'est sûr que s'ils gagnent le top 14 après avoir perdu un demi, limite on ne se rappellera pas forcément. Enfin, on se rappellera, mais on dira qu'il y a quand même un titre. Quoi.
Ouais. Donc, il faut pas se souvenir. Enfin, il faut se souvenir plutôt que. Le top 14, c'est le top 14 quand même. On voit ça, le bouclier.
Oui, on ne peut pas le banaliser. Quoi.
On ne peut pas le banaliser. Et puis cette Coupe d'Europe, c'est une superbe compétition, mais il y a les équipes Sud-Af. On a du mal quand même à se situer comme c'est pas vraiment une Coupe d'Europe. Bon, donc c'est un peu nouveau quand même comme compétition. Alors on l'assimile, on a vite fait de faire le lien avec
Coupe du Monde,
avec la
clubs.
Coupe d'Europe ou éventuellement la Coupe du Monde des clubs. Et encore que il y a pas les Blacks, y a pas, donc c'est pas vraiment ça non plus.
Ouais,
donc
ouais.
C'est un schéma un peu bâtard.
Un
quand
peu
même,
bâtard. Ouais.
Donc le bouclier, ça ratera le bouclier. Et si vous demandez à tous les joueurs de choisir entre l'un et l'autre, après, enfin. Je suis pas dans leur petite tête, mais enfin bon, le bouclier, c'est le bouclier.
Parce même que justement, si quand même à Toulouse, c'est peut-être un des clubs en France qui a peut-être le plus cet ADN européen. Il y a beaucoup de clubs comme La Rochelle, par exemple, ils expliquent que eux, bon, ils ont gagné deux fois la Coupe d'Europe cette année. Là, ils signent 100 fois pour top 14 plutôt que le bouclier parce qu'ils l'ont pas gagné.
Non, non.
Mais le stade, ils ont vraiment, je trouve qu'ils ont autant. D'ailleurs, ils sont presque même plus performants en Europe parce que même, alors là, on rentre plus dans le débat stratégique, mais leur jeu même s'adapte mieux
à l'arbitrage européen.
À l'arbitrage européen. D'ailleurs, Hugo Mola, il l'a dit après le match à Toulon, il dit quand je sors du match, etc., que je vois un arbitre qui laisse vachement jouer, qui arbitre en faveur de l'attaque, ça nous réussit beaucoup plus. Et le week-end d'après à Toulon, c'est un arbitrage complètement différent qui le réussit peut-être moins. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent autant en Coupe d'Europe.
D'ailleurs, le stade n'a jamais gagné cette version de Champions Cup avec les clubs sud-africains encore. En 2021, quand il a gagné, c'était encore sans les clubs sud-africains. Donc c'est peut-être un objectif aussi, ça aussi.
Fin de ce débat, messieurs. On va maintenant prendre le pouls des supporters.
100% rouge et noir.
Dans la fan zone, on va voir ce que pensent les supporters du stade. Ce soir, c'est Simon qui débriefe la victoire sans bonus de Toulouse contre le Racing.
Je pense que le fait que Dupont soit rentré, ça a tout changé. On s'attendait à un match avec plus d'intensité par rapport à la demi-finale de la dernière fois, quart de finale, pardon. Et Dupont, ouais, bah, on voit que c'est le maître à jouer de l'équipe de Toulouse. Hein. Il n'y a pas photo.
Elle vous a rassuré quand même avant la demi de Champions Cup, cette équipe-là?
Ouais, mais il faut que Dupont soit titulaire, qu'on mette les chances de notre côté.
Qui a été bon aussi?
Choco Barrès, qui a fait une bonne entrée. Bah, sinon, Ramos, malgré le vent, il a toujours un impact, je pense, psychologique avec les autres joueurs de l'équipe. Castro Ferreira, on va pas, voilà, quand même, lui, il faut qu'il soit titulaire, même s'il est jeune. Ça reste un bon joueur pour Toulouse.
L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com. Vous êtes dans l'émission 100% Rouge et Noir, on va parler maintenant du triangle arrière toulousain.
100% Rouge et Noir, l'avis de l'expert.
Lebel, Kinghorn, Ramos, voilà le triangle arrière aligné samedi dernier face au Racing. Avec ces trois-là, Hugo Mola a-t-il trouvé la bonne formule pour son trio de relanceurs? Quel est votre avis d'expert, Sébastien Viars?
Ah.
Alors, mon avis d'expert, c'est un super trio. En fait, Hugo Mola, il a que l'embarras du choix. C'est un peu le choix du roi. Ce qui est sûr, c'est que quand on rentre dans des matchs de phase finale, c'est des matchs qui ont une configuration qui est vraiment différente des matchs du top 14 dans leur en général. Un match de phase finale, il faut le gagner avant tout, avec la manière si possible. Le stade, évidemment, a pas de problème pour ça. Ce qui est sûr, c'est que quand on a des internationaux et qu'on a des gens dont on sait qu'ils auront 17 sur 20 sur des matchs les plus importants de la saison, on les met. Quand bien même ils n'ont eu que 13 ou 14 les matchs d'avant. On s'en fout de ça.
Parce qu'on parle de lui sans le nommer, mais c'est Thomas Ramos qui était un peu en balance pour ce poste-là, qui a fait des prestations, on va dire, moyennes ces derniers temps.
Ouais.
Et on avait vu un Kinghorn flamboyant à l'arrière, donc on se disait, est-ce que Kinghorn ne serait pas titulaire à l'arrière? Lebel et Malia Ozel qui ont été très bons tous les deux. Voilà, ouais. Il y a cette formule-là qui était possible.
Oui, et qui fonctionnerait, j'en suis sûr. C'est évident. Simplement, Tom Ramos...
Parce que si on fait sur la forme du moment, c'est celle-là qui prime.
Ouais,
cette formule-là,
mais,
non ?
Oui, mais sauf que la forme... Tom Ramos, il n'est pas en méforme. Tom Ramos, il a été un peu décevant, mais parce qu'on attend tellement qu'il est 18 sur 20 tout le temps, que quand il a que 14, on se dit, tiens, c'est bizarre, il est un peu moins bon. Il suffit que Kinghorn, justement, ben voilà, il marque un essai, il soit deux fois dans le bon timing sur un truc, et on se dit, ben tiens, pourquoi pas, finalement, ça c'est bien français. N'empêche que Thomas Ramos, il est indétrônable à l'arrière sur les matchs de phase finale, ça ne fait, à mes yeux, hein, aucun doute que Kinghorn, on le mette à l'aile, ben ouais, on peut le mettre à l'aile parce qu'effectivement, il est en forme, il peut buter aussi, s'il y a un souci, un truc. Mais n'empêche que Thomas Ramos, il aura 18 sur 20 sur une demi-finale de Champions Cup. C'est certain.
Mais ça, c'est parce que tu n'as jamais aimé les Écossais.
Hein. Non, ils sont hyper sympas, les Écossais.
Mais par contre, moi, je me mets à la place d'un Ron Cruzmalia qui a été excellent pendant les doublons, qui a dépanné un autre poste que le sien. Quand il est à l'aile, il est flamboyant, il va se retrouver a priori. Mmh. Si mais non, mais la logique est suivie sur le banc contre les Harlequins.
C'est un peu comme si tu prends un peu l'exemple du foot, t'as deux attaquants, et il te faut faire jouer les deux, t'en fais jouer un sur un côté. Et parce que t'as du mal à faire un choix, tu fais jouer tes deux stars, entre guillemets, Kinghorn. Dans le grand public, on ne le connaisse pas autant que Ramos, parce que Ramos, bon, il est quand même toulousain depuis quelques années, mais c'est un mec à 50 sélections en équipe d'Écosse, il y a une garantie sur le poste d'arrière.
Il bute aussi en plus.
Et Malia, c'est terrible à dire, mais c'est le joueur qui fait une saison exceptionnelle, qui a été bon à tous les postes. Ouais. Il a été utilisé en 10, il a été bon. À l'aile, il est bon.
Et il bute aussi.
Et malheureusement, au moment où arrivent les gros matchs, eh bien, il va se retrouver peut-être sur le banc. En plus, sa polyvalence fait que sur le banc, t'as un mec qui peut rentrer en 10, en 12, en 13, en 14, en 15. Enfin, il peut jouer vraiment partout.
Ouais.
Et c'est peut-être le statut qui va, entre guillemets, faire la composition d'équipe. Et c'est vrai que le statut, c'est que les grands joueurs, tu les mets tous. Hein. Donc, tu vas pas t'en priver d'un dans le 15 titulaire. Donc, tu t'adaptes. Je pense qu'il a essayé Kinghorn ce week-end. Si Kinghorn n'avait pas été bon ce week-end, peut-être qu'il se serait dit, bon, mais du coup, j'ai essayé les trois. Qu'on pouvait mettre aussi Ntamack en balance parce que Ramos pouvait aussi jouer en 10. Mais bon, on a vu qu'Ntamack est très bien revenu de sa blessure et au final, oui, c'est dur, mais c'est la loi du sport et c'est Malia qui va certainement en payer les pots cassés dimanche. Quoi. Ouais.
Et puis, il y a un autre paramètre qui est important qui est complètement invisible aux yeux du grand public, mais c'est l'aura des mecs, l'aura des joueurs.
C'est le leader, Ramos.
Le charisme dans le vestiaire, le charisme dans la vie de tous les jours, et ça, c'est important, parce que moi, je me souviens avoir joué avec des mecs, même à moitié blessés, c'était hyper important qu'ils soient là, qu'ils attaquent le match, même à 50%. C'est parce que ça affaiblit quand même moralement un peu l'adversaire, et puis ça te rend plus fort, toi, de savoir qu'il est là, même s'il n'est pas très bien, même si, ce qui n'est pas le cas en plus, hein, parce qu'ils sont tous en forme en fait. Hein. Donc, y a d'autres critères que la performance pure qu'on voit d'un match à l'autre.
Et alors, on pense parfois que Thomas Ramos est meilleur en 10 qu'en 15. Est-ce que tu en penses ? Et est-ce qu'avec l'âge, il ne va pas finir par avancer en 10 ?
Alors, en fait, c'est tellement un bon joueur de rugby qu'il pourrait jouer partout, il se démerderait partout, Thomas Ramos. Franchement, je le pense. Évidemment qu'il est bon. Il a fait une finale de championnat. Ils ont été champions de France avec lui en 10 et tout. Sauf qu'on oublie quand même une chose, c'est qu'en 10, il y a un autre joueur qui s'appelle Romain Ntamack et qui, pour le coup, est un des meilleurs de la planète à son poste. Donc, la question ne se pose pas, en fait. Il y a Romain Ntamack. On ne va pas mettre Romain Ntamack ou ailleurs à un autre poste, alors que tous les autres postes sont aussi pourvus de très bons.
Si Kinghorn continue à faire des prestations comme ça à l'arrière, à un moment donné, ça va peut-être se poser la question, tu vois.
Sauf si Thomas Ramos il remet tout le monde d'accord ce week-end, ce qui à mon avis
il en est capable.
Il est capable. Il fait partie des hommes forts du 15 de France. Évidemment du Stade Toulousain.
Ah ben voilà. Merci messieurs. On passe maintenant à l'interview de notre invité Sébastien Viars.
100% rouge et noir. Le CV de l'invité.
Tu m'arrêtes si je me trompe, Sébastien, 52 ans, tu as débuté le rugby à Aurillac en 90, puis Brive de 90 à 98, ensuite le Stade français un an, et Clermont de 99 à 2006, vainqueur du Dumas Noir en 96 avec Brive, champion d'Europe 97 avec Brive également, Coupe de France 99 avec le Stade français, vainqueur du Challenge européen 2004 avec Clermont, 16 sélections avec l'équipe de France et d'autres sélections avec les Barbarians, et tu as participé à la Coupe du Monde 95 en Afrique du Sud. Le coéquipier que tu aimerais revoir. T'as peut-être perdu de vue, mais...
Alors, il y en a plein, évidemment, mais je revois de temps en temps Tony Marsh, ça me fait vraiment plaisir.
En Nouvelle-Zélande ?
Ouais. J'aimerais revoir son acolyte à l'époque, Johnny Ngomo.
Trois quarts centre aussi.
Ouais, qui vit à Brisbane là. Alors je l'ai de temps en temps comme ça, mais j'aimerais vraiment le voir parce que c'est un mec qui m'a vraiment marqué. Puis il y en a plein. Il y a Gérald Merceron que je vois pas assez. Il y a Aurélien Rougerie que je vois pas assez. Mais il y a plein de brévistes aussi. François Duboissé que je vois pas assez. Laurent Travers, Didier Cazadei. Il y en a plein en fait. Carbo. C'est difficile de sortir un mec. Quand on a vécu des moments forts comme ça dans les différents clubs, ouais. Et j'en oublie aussi à Paris, que Marc Lièvremont, c'est tous des potes super qu'évidemment on voit passer. Mais en fait, je me rends compte qu'on est tellement, tellement nostalgique de cette période-là qu'on ne fait pas forcément l'effort de se revoir. Ça nous, c'est un moyen aussi de se protéger et d'éviter de ressortir des émotions. Si c'est pour éclater en sanglots à chaque fois qu'on se voit, voilà.
C'est très 2024, un homme qui pleure, vous savez.
Ouais, c'est
le coéquipier le plus fou.
Didier Cazadei, évidemment.
Pilier de l'époque.
Ouais, un des plus doués de sa génération, je crois aussi. Un des plus intelligents aussi.
Mais qui entraîne à Périgueux, je crois, maintenant, c'est
mais
ça
le plus fou. Ouais.
Mais plus fou sur le terrain ou en dehors?
Ouais, les deux.
Ok.
Les deux. En dehors, sûr. Et il n'était pas si fou que ça sur un terrain parce que tout était calculé. C'était vraiment. C'était un joueur parce que maintenant il ne joue plus. Mais je ne suis pas surpris qu'il. Qu'il entraîne maintenant tellement il connaît les hommes, surtout sur le bout des doigts. Et il sait les faire fonctionner. C'est incontestablement quelqu'un d'atypique.
Et là, en pensant à lui, tu as des flashbacks de soirée qui te reviennent.
Ouais.
L'action que tu aimerais pouvoir refaire. Alors, soit parce qu'elle était magnifique, soit parce que tu t'aimerais la changer, quoi.
Alors, il y en a tellement que j'aimerais changer, en fait, que je partirais plutôt sur une action que j'aimerais bien refaire, mais c'est... Il y a évidemment... si on parle d'une action individuelle, il y a cet essai, évidemment, en Coupe d'Europe, où c'était quand même... Ça, c'était vraiment sympa, parce qu'il tombait à un moment qui était un des matchs les plus importants de ma carrière, ouais. et avec un exploit individuel qui fait partie des plus chouettes que j'ai pu réaliser. Mais je dirais que si je devais en refaire un, ce serait plutôt le dernier essai de cette finale, en fait, avec... Parce que c'est une action collective extraordinaire.
Celui que tu marques aussi, c'est ça?
Non.
Ah, c'est pas ton deuxième,
non,
ok.
C'est Sébastien Carat qui marque, en fait. Sur un porté de 25 ou 30 mètres des avants, une sautée magnifique, Romuald Paya qui me met dans l'intervalle entre les deux centres, et j'offre la dernière passe à Seb Carat qui, en meilleur marqueur d'essai sur cette compétition qu'il est, finit au milieu des poteaux. Ça, c'était vraiment sympa. Puis c'était la fin du match. On savait à ce moment-là que c'était fini et qu'on allait gagner, que cette fois, on pouvait vraiment profiter des derniers instants de ce match.
Ouais, c'est une apothéose collective, en fait. Là. L'adversaire que tu détestais, le club ou le joueur?
Alors, il n'y a pas vraiment de joueur que je détestais. Les clubs anglais, on n'aimait pas trop, quoi. Donc, la motivation était toute trouvée. On n'avait pas besoin que Didier Cazin nous hurle dans les oreilles avant le match pour nous motiver quand on recevait un club ou qu'on allait jouer un club anglais, quoi.
Le moment où tu t'es senti le plus fort, c'est 97 aussi.
Le moment où je me suis senti le
ta meilleure période où c'était facile, quoi.
Bah, en fait, assez bizarre. Bon, il y a eu cette période effectivement, mais je crois que la période où je me suis senti vraiment, où j'avais le sentiment de tout maîtriser, ce sont mes dernières années à Clermont.
À Clermont, ouais.
Parce que là, pour le coup, j'avais 31, 32 ans, j'avais pas de problème physique, j'étais en pleine forme, j'avais l'impression de vraiment maîtriser tous les paramètres de mon poste d'arrière. À l'époque, on avait Olivier Saïssé comme entraîneur qui vraiment m'avait donné les clés du camion. Et c'était vraiment une période faste, cette période-là.
Et c'est là qu'on voit que du coup, la maturité, ça joue dans les performances, on est plus à l'aise, on sait plus où aller, on sait plus... Ça joue à l'époque, ça, non?
Ouais, quand alors, bien. Quand on a 30 ans, c'est vrai qu'on a plus d'expérience qu'à 20, donc ça joue en notre faveur, mais quand on a 20 ans, on est aussi plein d'insouciance, et c'est une vraie force, hein, ça, parce qu'après, il faut la garder, cette insouciance, c'est pas toujours facile.
Effectivement.
100% rouge et noir, le c'est vrai, c'est pas vrai.
Deux affirmations sur toi, Sébastien, tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Sébastien Viard, il va un jour reprendre un club avec un pôle d'investisseurs.
C'est faux.
Pourtant, t'es dans la finance, toi, ça te plairait, ça, non? Ça te plairait pas?
Non, ça me plairait pas.
Ok. Je te voyais le profil comme ça, mais...
Non, ça me plairait pas. Non, mais déjà, il faut de l'argent, beaucoup d'argent pour ça.
Avec un pôle d'investisseur derrière toi, tu vois.
Ouais, bon, mais oui, mais je... J'ai plein de clients à qui je conseille effectivement de faire des placements, mais je considère que c'est quand même un placement spéculatif, ça. Et moi, en bon auvergnat que je suis plutôt prudent. Quoi,
dans le sport, c'est plus un plaisir que.
Ça font perdu, oui, voilà.
Vraiment,
c'est des images, quoi.
Ouais, bon, mais voilà, donc c'est du.
Mmh. Et t'aimerais pas être dirigeant d'un club de rugby ? Président, t'as Laurent Travers, ton ancien coéquipier, qui est président d'un club maintenant.
Ouais, Toto, que j'adore. Oui, ouais, c'est vrai, mais ça le ronge aussi. Donc, en fait, moi,
c'est chronophage, ouais.
Je me suis sorti un peu du milieu pour profiter de mes week-ends, pouvoir grandir mes enfants et pour apprécier d'une autre manière ce sport que j'adore. Hein, mais non, franchement, je voudrais pas y revenir.
Moi, je crois que t'as répondu à la deuxième affirmation. Sébastien Vierce, il aimerait entraîner les trois quarts d'une équipe pro.
Alors. J'aimerais pas entraîner les trois quarts parce que c'est énormément de temps et j'ai déjà un job que j'adore et qui me prend tout mon temps de dispo. Mais ça m'aurait plu ça m'aurait plu quand même. J'ai eu des opportunités quand j'ai arrêté d'entraîner en top 14, mais ça le côté managérial m'aurait plu, je crois, parce que j'aime bien les mecs qui jouent, qui ont une mentalité complètement différente de celle qu'on avait. Hein. Ils ont une approche du sport qui est vraiment différente, mais qui est hyper pro, qui est hyper. Quand je vois les jeunes Toulousains là qui s'éclatent, ça donne envie de les entraîner et de s'en occuper. Ouais, bien sûr.
Comment ça fait que tu n'avais pas plongé alors à l'époque ? C'est quoi qui t'embêtait là ?
Ben parce que j'avais fait de longues études pour faire le métier que je fais aujourd'hui, et c'était pas pour balancer d'un revers de main tous ces efforts de fac à la Sorbonne le soir jusqu'à 22h en me disant mais tiens, on va l'entraîner tel club ou tel club. Non, j'étais sur ma voie, c'est un métier que j'avais choisi, c'est pas du tout un métier d'opportunité, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Je l'ai fait, je regrette pas aujourd'hui.
Tu fais la gestion de patrimoine à Toulouse. Ouais. Merci beaucoup Sébastien Vierce.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Cool. On s'est régalé.
Gilles, les prochains rendez-vous rugby ?
C'est dimanche à partir de 15h30, l'intégrale Toulouse-Harlequins sur 100% et 100% Région Noire mercredi prochain.
Merci à tous.
Bye.
Merci.
Bye.
Merci, salut.
L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.